Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Actuellement, lors de nos émissions, nous méditons sur la question « Comment reconnaître un bon dirigeant ?»
Tout au long de cette série, notre invité Robert nous conduira dans nos réflexions. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris que tout dirigeant est appelé à promouvoir la justice et à assurer le bien-être des personnes dont il a la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons reparler de la justice, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons réécouter quelques versets du psaume 72 qui nous donne un aperçu de ce que l'Éternel attend de tout dirigeant, car nous y trouvons la description du chef par excellence.
Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi, et donne au fils du roi ton esprit de justice, qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple, selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres, selon ce qui est droit. Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux de son peuple, qu'il sauve les enfants des pauvres et qu'il écrase l'oppresseur.
Ces versets montrent clairement que le roi idéal doit exercer la justice en faveur de tout son peuple de façon juste et équitable. Expliquez-nous davantage ce que cela implique.
Toute personne dispose en principe des mêmes droits aux yeux de la loi. Et l'on peut parler d'injustice lorsqu'un individu occupant une position de pouvoir en prive une autre de ses droits devant la loi. Cette forme d'injustice peut se pratiquer envers des personnes vulnérables, telles les pauvres, les veuves et les orphelins, car ces personnes ne disposent pas de moyens pour contester une décision légale. Un dirigeant intègre ne profitera jamais ainsi de la vulnérabilité ou de la détresse de ses citoyens ou de ses sujets. Au contraire, il s'assurera que les personnes vulnérables dans sa société sont bien protégées et aidées par la loi. Il promouvera leurs droits et défendra leurs intérêts dans un monde en quête de justice.
Merci Robert. Et pouvez-vous citer des exemples exprimant d'autres formes d'injustice?
Oui, nous pouvons parler de favoritisme lorsqu'une personne exerçant un pouvoir abuse de sa position en accordant des faveurs à certains de façon injuste. À travers ces décisions, un groupe de personnes peut être favorisé au détriment d'autres. En Afrique, par exemple, où les identités tribales demeurent importantes, il peut s'en suivre qu'un dirigeant appartenant à une tribu peut favoriser les individus issus de sa tribu et défavoriser ceux des autres. Nous pouvons qualifier une telle politique de discriminatoire. Elle est l'expression de l'injustice. Malheureusement, il est possible d'exercer une discrimination basée sur d'autres critères, tels que la religion, le sexe, l'âge ou le statut social d'une personne. Un dirigeant juste travaillera à ce que la discrimination entre ces groupes de personnes ne soit pas pratiquée. Il s'efforcera de faire preuve d'égalité.
Et nous apprenons que dans certains pays, des conflits tribaux violents éclatent par endroits. Est-ce parce qu'une tribu est dominante dans le gouvernement et qu'elle cherche à mettre en avant essentiellement ses propres intérêts?
Oui, il est dans l'intérêt d'un gouvernement de diriger la politique de son pays de façon à répondre équitablement aux besoins de tous. Sinon, comme vous l'avez souligné, certains groupes se sentiront lésés et des conflits sanglants pourront s'en suivre. Mais si le sentiment d'injustice peut se comprendre, le recours à la violence, quant à lui, ne peut l'être.
Nous venons de parler de l'injustice pratiquée à l'échelle du gouvernement, mais comment vos enseignements peuvent-ils s'appliquer dans d'autres cas?
Il se trouve probablement parmi nos auditeurs des chefs d'entreprise ou des commerçants. Le droit exige que toute personne qui emploie d'autres réfléchisse aux intérêts de ses employés, tout autant qu'à la réussite de son commerce ou de son entreprise. Ainsi doit-elle se demander, le salaire que j'accorde à mes employés est-il juste? Les conditions de travail sont-elles correctes? Et lors d'un entretien d'embauche, qui choisir? un membre de ma tribu ne possédant ni diplôme ni expérience, ou celui d'une autre tribu, mais qui dispose de tous les atouts pour remplir bien le poste offert?
Oui, en effet, les problèmes soulevés par l'injustice peuvent nous toucher de près.
De plus, selon la Bible, tout mari, tout père est chef de famille. Alors, dirigeons-nous nos familles avec droiture? Il est triste de constater que dans beaucoup de familles, on peut favoriser un enfant aux dépens d'un autre. Certains maris abusent de leur pouvoir et maltraitent leurs femmes, les privant de leurs droits et ne faisant de leur intérêt aucun cas. La pratique de la polygamie complique beaucoup la vie des familles. Elle est souvent accompagnée de grandes injustices, car un homme aura toujours une favorite qui recevra plus d'attention que ses autres femmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible condamne la polygamie. Le dessein de Dieu pour le mariage est celui-ci. Un seul homme et une seule femme doivent s'attacher l'un à l'autre et pour le restant de leur vie.
Merci Robert pour ce rapide tour d'horizon, nous montrant la façon dont la pratique de la justice peut toucher nos vies. Dans le psaume lu tout à l'heure, l'idée se dégage que là où la justice est exercée, la paix peut s'établir.
Oui, Yann. Que ce soit dans nos familles, sur notre lieu de travail, dans nos quartiers ou nos pays, la pratique de l'injustice aura pour conséquence les conflits et l'absence de paix. C'est pourquoi tout dirigeant sage, tout chef d'entreprise sensé, tout bon père de famille doit mettre tout en œuvre pour promouvoir la justice, car il est dans l'intérêt de tous de vivre en paix.
Merci Robert, et nous reviendrons la prochaine fois sur ce sujet. Mais pour aborder cette fois-ci une autre qualité caractérisant le bon dirigeant, qui est l'attitude de service. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons réfléchir sur le sens d'une illustration biblique, celle du trésor. Dans un premier temps, Hélène lira les paroles de Jésus trouvées dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Ensuite, Cédric nous guidera vers une compréhension de ces versets.
Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur.
Bonjour Cédric et bienvenue à nouveau sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Oui, bonjour Yann et bonjour à tous.
Cédric, Jésus semble nous placer devant un choix. Selon lui, nous pouvons choisir soit d'amasser des trésors sur la terre, soit d'en amasser dans le ciel.
Oui, Jésus nous demande ainsi de considérer quelle doit être notre priorité la plus importante. Qu'est-ce qui doit orienter nos choix, nos décisions, notre conduite? Lorsque nous voyageons, que ce soit en voiture ou à pied, nous ne pouvons pas suivre deux directions en même temps. Il nous est, par exemple, impossible de nous rendre simultanément vers le nord et vers le sud. De même, notre préoccupation première dans la vie sera soit motivée par la poursuite de trésors terrestres, soit par le désir de posséder un trésor céleste.
Il est relativement facile de comprendre quels peuvent être les trésors sur la terre et ce qu'il faut entreprendre pour les posséder. Toutefois, en ce qui concerne les trésors accumulés dans le ciel, il est moins évident d'en comprendre la signification et la manière de se les procurer. Pouvez-vous donc nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, bien sûr. Les trésors sur la terre désignent les richesses matérielles, telles l'argent et les biens, le pouvoir, la célébrité, etc., tandis que les trésors célestes sont de nature spirituelle.
L'idée d'amasser des trésors au ciel évoque pour certains la notion de récompense. Ils pensent que s'ils mènent une vie pieuse et respectable, que s'ils accomplissent beaucoup de bonnes œuvres, alors dans la vie éternelle, un grand nombre de récompenses leur sera attribué. Partagez-vous cette interprétation des choses?
Non. Pas vraiment. Nous avons appris la dernière fois que le livre biblique des Proverbes enseigne que la véritable sagesse est un trésor qui nous conduit à la connaissance de l'Éternel. Ainsi pour moi, le trésor placé dans le ciel représente Dieu lui-même qui se dévoile à nous, qui se donne à nous. non pas comme une récompense, mais comme une grâce. Jésus, en nous exhortant à amasser des trésors dans le ciel, nous encourage à faire de notre quête de l'Éternel une priorité. Il nous exhorte à nous ressourcer auprès de lui, à nous enrichir de sa présence. Il veut nous pousser à approfondir notre relation avec le Dieu merveilleux, à découvrir, comme l'exprime l'apôtre Paul, toute la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de son amour.
Vous avez expliqué que ce trésor, la connaissance de l'Éternel, n'est pas reçu comme une récompense, mais comme un cadeau issu de sa grâce. Comment alors obtenir ce trésor? Comment le découvrir?
Eh bien, c'est par la foi. En lisant la Bible, en croyant à ses écrits, nous pouvons acquérir une véritable connaissance de Dieu. Nous pouvons nous emparer des richesses spirituelles promises par l'Éternel. En partant à la recherche du Seigneur, en entreprenant cette démarche de foi, il viendra à notre rencontre, il se dévoilera à nous et nous découvrirons qu'il est véritablement le bien le plus précieux que nous puissions posséder.
Merci Cédric. Et en parlant des trésors, Jésus évoque la rouille, les mythes et les cambrioleurs. Pourquoi? Et que devons-nous en apprendre?
Jésus établit un contraste entre les trésors sur la terre, fragiles et vulnérables, et ceux du ciel qui sont éternels. Les hommes et les femmes sont souvent en quête de sécurité, mais malheureusement les trésors terrestres, pour lesquels ils peuvent tout dépenser, sont des trésors à risque, des trésors qui ne durent pas, car avec le temps, tout ce qui est matériel se détériore et demande à être remplacé. Des voleurs aussi peuvent dérober les possessions auxquelles nous sommes devenus attachés. Par contre, les trésors amassés dans le ciel y sont placés en sécurité. Dieu est éternel, il ne change pas, il demeure constant et fidèle, il vit à jamais, et de plus, personne ne pourra jamais nous séparer de lui. Personne ne pourra non plus rompre les liens d'amour qui nous unissent à lui. Si l'on en venait à dérober tous nos biens matériels, notre situation serait dramatique. Mais toutefois, même si c'était le cas, nous ne perdrions jamais notre bien le plus précieux, qui est la connaissance de Dieu, l'assurance de sa présence et l'espérance de la vie éternelle. Sur le plan matériel, nous ignorons ce que l'avenir tient en réserve pour nous. Toutefois, sur le plan spirituel, nous possédons des certitudes. L'Éternel demeurera toujours avec nous, dans cet âge présent et dans l'âge éternel à venir.
Alors que nous arrivons vers la fin de cette émission Espérance aujourd'hui, il serait bon de reposer la question avec laquelle nous avons ouvert notre discussion. Cher ami, quelle est votre priorité dans la vie? La poursuite de biens matériels ou la recherche de la connaissance de l'Éternel? Le Seigneur dépasse en valeur tous les biens du monde réunis et il s'offre pleinement à celui qui croit en lui.
En attendant de vous retrouver, nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.